Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le Crazy Horse fête ses 60 ans et Franck Ferrand a, trouvé le sujet inspirant.
Oui.
Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est en effet au printemps 1951 qu'Alain Bernardin a créé le célèbre cabaret de l'avenue Georges V, donc tout près d'ici, tout près des studios d'Europe 1. Nous en profiterons aujourd'hui pour évoquer non seulement le Crazy Horse bien sûr, mais quelques-uns de ses aînés, et notamment les Folies Bergères et le Moulin Rouge. Bref, tout ce qui a beaucoup contribué à la réputation d'un certain Paris.
Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission Franck en nous joignant par internet sur le site d'Europe 1, www.europe1.fr.
N'hésitez surtout pas, notre invité pour parler des cabarets parisiens, c'est Jacques Pessis en personne, la mémoire vivante du music hall des cabarets. Vous voyez que nous sommes armés pour vous répondre.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
À l'origine était le café-concert, lieu de plaisir assez hybride à ses débuts, comme un spectacle alternatif né de l'abolition en 1864 du privilège du théâtre. Nous allons revenir sur ses origines tout à l'heure. À Paris, dans les années 1880, on en dénombre pas moins de 300. Ça va du bistrot où l'on pousse la chansonnette jusqu'au grand cabaret avec revue ou première revue. Généralement, l'entrée est libre, mais le client se doit de consommer, évidemment. Il y a bien encore un peu de cirque dans le Cafconce des débuts. Il faut imaginer des funambules, des illusionnistes, des montreurs de singes qui apportent là leur tradition plus ou moins foraine, même s'ils sont pour beaucoup des héritiers du boulevard du crime, si j'ose dire des héritiers des enfants du paradis. Mais assez vite, c'est la chanson qui s'impose, comme à l'Eldorado, boulevard de Strasbourg, véritable temple d'un art qui est encore mineur mais promis au plus grand devenir. C'est là notamment que se produit à partir de 1889, à partir de l'Expo, l'incontournable, la légendaire Yvette Guilbert. De l'autre côté du même boulevard, à la Scala, on peut dire que la concurrence se veut rude. Ouvrard, c'est le grand comique troupier de l'époque, et puis Paulus, la gloire du Cafconce, sont là, sans oublier Marius Richard, qui a connu un triomphe sans précédent avec une romance fondatrice et qu'on fredonne encore de nos jours, la chanson des Blés d'Or. Continuons notre promenade dans le Paris des premiers cabarets. À l'époque encore, temple de la chanson, l'Alcazar d'hiver, faubourg Poissonnière, qui présente des décors assez bariolés, assez orientaux. C'est un véritable dépaysement, l'Alcazar d'hiver. Et puis le Bataclan, boulevard Voltaire, construit par Charles Duval, et au répertoire un peu plus soutenu que la moyenne, on donne beaucoup d'opérettes au Bataclan, et même de l'opéra comique. Le Bataclan existe toujours, du reste, même si la programmation, c'est le moins qu'on puisse dire, a beaucoup évolué. Le Bobino aussi existe, et puis la Cigale, toutes ces grandes salles de concert, finalement, sont toujours là. Ce sont des salles emblématiques de la capitale, comme l'ont été, comme le sont, et j'espère le seront toujours, les Folies Bergères et le Casino de Paris notamment.
On a juste 16 ans, on y vient en tremblant, Folies Bergères. On hésite primo entre le casino, Folies Bergères. On y voit les femmes nues, on en est tout ému, Folies Bergères. On prend un air blasé, mais on regarde de côté, Folies Bergères.
Maurice Chevalier sur Europe 1 avec Folie Bergère, Franck.
On l'écouterait volontiers, le grand Maurice. Alors, Folie Bergère, on n'est pas très loin du cirque. Hein. C'est un peu un cirque d'hiver, si on veut, avec là encore numéro d'équilibre, de force, de prestidigitation, de dressage. Mais ça, c'est côté scène, parce que la vérité des Folies Bergères, c'est que dans le promenoir peuvent se rencontrer volontiers des dames qui ne sont là ni pour chanter, ni pour danser, ou alors tout à fait en privé. À la fin des années, on va revenir sur tout ça évidemment, hein, à la fin des années 80, 1880, deux hommes d'affaires ont flairé le bon filon. Ils confient la conception d'une nouvelle place, d'une nouvelle salle, pardon, Place Blanche, on est au pied de la butte Montmartre, au peintre montmartrois Villette. Ce sera le Moulin Rouge, dont le quadrille, c'est bientôt une publicité vivante. Je vois
Jacques Pessis qui fait déjà
de grands gestes, donc à mon avis,
presque.
Il va avoir de petites rectifications à faire. Les danseuses, ça c'est certain, soulèvent leurs jupes, agitent leurs dentelles, lèvent haut la jambe. Elles ont des noms qui passeront à la postérité. Nini Patte en l'air, évidemment. Et puis cigarette, demi-siphon, grille d'égout. Vous avouerez que ce sont quand même de drôles de noms. Ça peut presque être considéré comme une préfiguration de certains pseudonymes des danseuses du Crazy Horse, tout ça. Voilà tout un monde, tout un esprit que Toulouse-Lautrec évidemment va immortaliser, mais il ne sera pas le seul. C'est que le cinéma, notamment, aime beaucoup le Moulin Rouge. On pense évidemment au film de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman, mais pensez aussi à French Cancan de Jean Renoir, Moulin Rouge de John Huston, au fantôme du Moulin Rouge de René Clair, etc. On pourrait monter loin comme ça, une bonne quinzaine de films en tout. Et la nudité dans tout ça, allez-vous demander? Eh bien, nous y venons dans un instant.
Un extrait sur Europe 1 de Cancan, la vie parisienne, composé par Jacques Offenbach. Restez avec nous, on retrouve Franck Ferrand dans un instant, qui nous relate aujourd'hui un siècle de cabaret.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui nous propose aujourd'hui sur Europe 1 une tournée des Grands-Ducs dans les cabarets parisiens.
Sparkling Diamonds, c'était Nicole Kidman évidemment,
oui.
Extrait de la BO du film Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Alors, ce Moulin Rouge, revenons-y, mais il y a longtemps, le 8 février 1893, le jour où a lieu dans ce Moulin Rouge le célèbre bal annuel des Quatre-Arts. Ce jour-là, quatre jeunes femmes, en fait ce sont des modèles de peintres du coin, se produisent à peu près dans le plus simple appareil. Quand je dis à peu près, il y en a une qui est couverte de résille, d'autres d'une espèce de voilage tellement transparent qu'il vaudrait mieux qu'elle ait rien du tout. Enfin bon, ça fait évidemment un émoi considérable. On est, je dis bien, en 1893, dans une époque où ça fait déjà plus d'un siècle que la bourgeoisie a pris le pouvoir en France et qu'elle a installé partout ses modèles de vertu. Quelques jours plus tard, à l'Élysée-Montmartre, cette fois à l'occasion du bal fin de siècle, reparaît une des quatre Vénus du Moulin Rouge, vêtue cette fois d'une chemise de tulle que déchirent les invités. Non, là ça va vraiment trop loin et le sénateur René Béranger décide d'intervenir. Vous savez, le sénateur René Béranger, il est célèbre parce que c'est lui qui a inventé le principe du sursis à exécution dans les peines de justice. Mais en l'occurrence, on l'appelait aussi et surtout le père la pudeur. On va y revenir hein, sur ce bonhomme. C'est lui qui dépose plainte contre le Moulin Rouge et l'Élysée Montmartre. Les quatre femmes qui se sont un peu trop dénudées sont... Alors pour celles du Moulin Rouge, elles sont condamnées à 100 francs d'amende avec sursis, ça j'allais dire c'est l'arroseur arrosé pour Béranger, et puis celle de l'Élysée-Montmartre écope quand même de 15 jours de prison, avec sursis aussi, mais enfin ça devient un peu plus sérieux. Et cette condamnation que nous voyons nous avec le sourire, avec le recul, elle fait un bruit considérable à l'époque. Et notamment les étudiants, tout le quartier latin, voit là un prétexte pour faire un peu d'agitation. Quand je dis un peu d'agitation, ce sont de véritables émeutes qui se déclenchent. On est dans une sorte de mai 68 avant l'heure, le quartier latin est en révolution. Peu à peu, la révolte s'étend, elle franchit la Seine, gagne tous les quartiers ouvriers de l'Est parisien. Et pour le gouvernement de l'époque, c'est un véritable problème. Il faut faire intervenir la troupe. L'ordre va finir par être rétabli à Paris. Mais ces événements auront, entre autres, une conséquence inattendue, c'est la naissance du striptease moderne, figurez-vous Julia. Parce que pendant les événements, la direction d'un cabaret de la rue des Martyrs, qui s'appelle le Divan Fayouot, a lancé ce nouveau genre de spectacle. Alors vous avez des jeunes femmes qui commencent à se déshabiller, elles vont pas jusqu'au bout à l'époque, mais enfin elles se déshabillent quand même progressivement devant une assistance qu'il faut imaginer un peu congestionnée. Les titres des tableaux sont suggestifs, Le coucher d'Yvette, Suzanne et la grande chaleur, tout un programme.
Ça mérite d'être clair, hein.
Liane chez le médecin, enfin voilà, je sais pas si la Liane en question était Liane de Pougy, j'en doute beaucoup. Ce sont là les tout premiers spectacles de nus dans un cabaret parisien. Quand je dis les tout premiers, il faudrait remonter au XVIIIe siècle. Il y a de toutes autres sortes de spectacles, de pantomimes, pour avoir de même genre de choses. Il y aura par la suite, dans les années 1900, des tableaux très dénudés sur les scènes des Folies Royales ou des Folies Pigalle. Mais il faut attendre en réalité l'après-guerre, quand je dis l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale en 1919, pour qu'apparaisse une femme nue sur la scène d'une grande revue. Ça, c'est au Casino de Paris. Paris, dans un spectacle qui s'appelle Paris qui danse, qui caille, évidemment. Vous voyez qu'il y a encore quelques chemins à parcourir avant d'en arriver à l'art du nu tel qu'il s'expose aujourd'hui au Crazy Horse.
Mon truc en plume, plume des oiseaux, des animaux. Mon truc en plume.
Zizi Jambert sur Europe 1, mon truc en plume. Restez avec nous, Franck Ferrand revient dans un court instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les Folies Bergères, le Moulin Rouge, le Lido, le Crazy Horse, Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire des grands cabarets parisiens.
Alors, je vous ai vu tout à l'heure froncer des sourcils, Jacques Pessis.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être des nôtres. Vous êtes, alors, je ne vous présente pas, hein, vous êtes, je disais tout à l'heure, la mémoire vivante du music hall, mais c'est vrai, de tous nos grands chanteurs. Et alors, notamment, vous avez écrit avec Jacques Crépineau, Le Moulin Rouge, ça c'était chez La Martinière il y a quelques années, mais on ne trouve plus le livre aujourd'hui.
Le premier livre que j'avais fait sur l'histoire du Moulin Rouge, qui ne connaissait pas d'ailleurs au Moulin Rouge, on avait retrouvé des documents uniques, parce que c'est quand même le grand cabaret parisien, la légende de Paris dans le monde entier.
Et puis Les Folies Bergères, toujours avec Jacques Crépineau, c'était chez Fixo. Et vous aviez écrit Cabaret 70. Et puis vous avez aussi fait pas mal de documentaires pour la télévision, etc. sur tous ces cabarets. Alors quand je parlais tout à l'heure de Villette, ce peintre montmartrois qui avait, disais-je, conçu le Moulin Rouge, je vous ai vu froncer les sourcils.
Oui, parce que le véritable inventeur du Moulin Rouge est un monsieur dont le nom ne dit plus rien aujourd'hui, qui s'appelait Joseph Oller. Il a été élevé en Espagne et en voyant des combats de coqs, il a inventé à Paris ce qui est devenu le Paris Mutuel, le tiercé. Et puis, il a eu l'idée de créer...
C'est le père du PMU.
Exactement. À l'époque, c'était assez clandestin. Et puis, il a eu l'idée de faire des différents cabarets, dont le Moulin Rouge, qui était un lieu où venaient s'encanailler les bourgeois un peu en dehors de Paris. Et ça a été un triomphe immédiat parce qu'il a repéré dans un cabaret des jeunes femmes et des jeunes gens qui dansaient le quadrille naturaliste. C'est-à-dire le cancan. Parce que le quadrille naturaliste, c'est le nom exact du cancan. Un jour, en anglais, qui s'appelle Charles Morton, trouve cette danse, l'importe à Londres, le présente sous le nom de French Cancan.
Parce que c'est une Pourquoi danse French Cancan
parce que c'est une danse française qui fait du bruit.
Qui fait du bruit.
Tout simplement. Et c'est revenu en France avec la Goulue, l'Autrec, sous ce nom-là. Et Holler a également inventé quelques années plus tard un.
Holler, donc ce grand homme d'affaires.
Grand homme d'affaires. Il achète un hangar désaffecté et c'est l'Olympia. Il en fait l'Olympia et il dit mais comment on dit hangar à musique en anglais ? Et c'est comme ça qu'est né le mot musical en France.
Ah voilà. Alors justement, quelle est la différence, fixons ça une bonne fois pour toutes, entre musical et cabaret ?
Alors, les cabarets, il y a plusieurs sortes de cabarets. Le cabaret, d'abord, c'est un spectacle avec des numéros burlesques, avec des acrobates, avec des danseuses, avec une revue. Le musical, ce sont des chanteurs. Alors, la tradition du musical, avec notamment Bruno Coquastrix à l'Olympia, il y avait des vedettes, première partie américaine, anglaise et la star, il y avait des numéros, mais ça n'a rien à voir. Et en plus, le musical, ça dure 3 semaines, un spectacle de cabaret, le Moulin Rouge, ça fait 10 ans que la revue existe.
C'est ça, bien sûr, ce sont des revues qui durent sur plusieurs saisons.
Mais oui, d'abord, ça coûte très très cher et il faut les rentabiliser.
Ce qui coûte très cher, ce sont tous les costumes, les décors, enfin, etc. Puisqu'on crée une atmosphère à chaque fois différente.
50 personnes sur scène avec des piscines qui montent, qui descendent. Et je veux dire que le Moulin Rouge, c'est étonnant parce qu'ils font 1700 personnes par jour à Paris, des étrangers. Alors quand on dit que Paris n'existe plus pour l'étranger, c'est totalement faux. Voilà la preuve.
Ce qui a fait la gloire du Moulin Rouge, puisque nous parlons du Moulin Rouge, allons-y sur cette grande maison de la Place Blanche. Ce qui a fait sa gloire, c'est précisément le French Cancan. C'est cette dimension très Paris 1900 à laquelle la salle est restée attachée, du reste, toujours.
Ah, le French Cancan fait partie de la tradition. Toulouse-Lautrec est tous les soirs au premier rang, parce que le Cancan, au départ, le Moulin Rouge, c'est un jardin avec, au fond, un petit hangar où il y a
C'est un bal, en fait. Hein.
Un petit bal, oui. Il y a Yvette Guilbert, il y a un garçon étonnant qui s'appelle le Pétomane, qui fait un numéro surréaliste.
Dont on imagine quel est son instrument principal.
On est d'accord. Et le Cancan, qui à 22h fait un triomphe. Et tous les soirs, devant son verre d'absinthe, Toulouse-Lautrec dessine. Et c'est comme ça que sont nés des tableaux qui aujourd'hui valent des millions d'euros dans le monde entier. Et la légende de Paris à l'époque, ça a été le Cancan et ça allait rester. Mais il y a eu d'autres époques du Moulin Rouge ensuite.
Oui, alors le Moulin Rouge qui a toujours quand même continué à présenter des attractions, de grandes attractions. Hein. Ça fait partie ça aussi du cabaret. On va venir évidemment sur le scandale, sur le nu, etc. Ce que je vous racontais à l'instant. On va parler de la grande époque de l'entre-deux-guerres avec Mistinguette, avec les plus grandes revues, avec Joséphine Baker qui arrive comme danseuse.
Pas au Moulin Rouge.
Alors pas au Moulin Rouge, non.
C'est-à-dire qu'elle est aux Folies Bergères. C'est qu'au Moulin Rouge, le Moulin Rouge brûle en 1913. Et il est reconstruit en 1925, au temps des années folles. Et Mistinguette, qui est à l'époque la numéro 1 des meneuses de revue, vient au Moulin Rouge. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant 7 ans, le Moulin Rouge va afficher complet, qu'elle va avoir dans sa troupe des boys qui s'appellent Jean Gabin, Henri Garat, qui vont débuter
incroyable.
Avec elle. Elle chante avec Gabin la Java de Doudoune. Et un jour, un Américain qui s'appelle Ziegfeld vient à Paris, voit le spectacle du Moulin Rouge qui s'appelait Allô ici Paris. Et si vous prenez la première revue de Broadway de Ziegfeld, c'est exactement la copie de cette revue du Moulin Rouge. Donc, qu'on arrête de dire que Broadway a tout inventé.
Non,
Broadway est né à Paris au Moulin Rouge.
Broadway est venu copier le Moulin Rouge.
Exactement.
En fait. Alors, il y a eu des heures moins fastes aussi au Moulin Rouge. C'est devenu même une salle de cinéma.
Ben, à la fin des années, dans les années 30, le cinéma parlant est arrivé. Et le musical, ça n'existait plus pendant quelques années. Donc, on a fait un cinéma Moulin Rouge avec une vague attraction en première partie. Mais ça n'a pas duré, le cinéma a duré, mais après, petit à petit, le vrai musical est revenu, mais plutôt au Casino de Paris qu'au Moulin Rouge.
En fait, c'est assez étrange cette déréliction lorsqu'on voit que dans d'autres pays, le musical, le cabaret n'ont jamais cessé. Je pense notamment à l'Allemagne qui a une extraordinaire tradition de ce qu'on appelle les variétés.
Alors vous prêchez un convaincu, le problème c'est qu'aujourd'hui, quand vous aviez 20 personnes sur scène plus un orchestre, dans les années 30, c'était faisable. Aujourd'hui, avec les charges, ça coûte une fortune. Alors, le Moulin Rouge le fait encore, le Lido encore un petit peu, mais sinon, il n'y a plus cette image de Paris qui était exceptionnelle et il y a tout à refaire dans une revue moderne aujourd'hui parce que le grand public est attaché à ça.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors, nous disions un mot tout à l'heure des Folies Bergères. J'étais en train de dire, Jacques Pessis, qu'il y avait d'abord, dans un premier temps, les Folies Bergères avaient une double vocation. Une officielle, une officieuse.
Oui, et l'officieuse inquiétait beaucoup les dames de province quand le mari venait à Paris, parce qu'effectivement, il y avait un immense promenoir où on rencontrait ce qu'on appelait des cocottes. Mm-hmm. Il y a des jeunes femmes de bonne ou mauvaise famille, peu importe, mais couvertes de bijoux, et réclamant de l'argent, moyennant quelques services. Et ça, effectivement, ça a fait le succès des Folies Bergères, où il y avait quelques numéros de musical, jusqu'en 1886, où un jour, un journaliste du Figaro, qui s'appelle Georges Grison, écoute aux portes et il entend la directrice dire « mais il nous faudrait une nouvelle attraction au Folies Bergère pour que ça marche ».
Et il a l'idée 1886.
Il a l'idée de la revue qui s'appelle « Place aux jeunes », mais « jeunes J-E » U accent circonflexe NE, qui est la première revue de l'histoire aux Folies Bergères et qui a lancé le genre et donné le succès.
Il n'y avait pas eu de revue avant celle-là?
Non, c'était des numéros de music-hall qui s'enchaînaient, des artistes.
Et donc là, on donne une espèce d'unité à tout ça et on en fait un spectacle cohérent, en quelque sorte.
Oui, parce que, attention, la revue de l'époque, c'était des sketchs avec des chansons. Même Miss Tinguette, quand elle est passée dans tous les lieux, c'était des sketchs qui, quelquefois, n'en finissaient pas parce qu'elle en rajoutait, notamment sur les marques commerciales qui la sponsorisaient, sans problème. Mais c'était vraiment des numéros qu'on voyait avec des chansons que tout le monde connaissait et fredonnait.
La popularité de Miss Tinguette est une chose qu'on a aujourd'hui oubliée. Je disais ça l'autre jour à propos de Sarah Bernard, première star des temps modernes, mais Miss Tinguette est pas loin derrière avec ses célèbres jambes, évidemment.
Oui, c'est ses gambettes qu'elle avait assurées. Elle faisait un numéro, elle aussi, de music-hall, mais même en dehors de la scène. Et c'est vrai que c'était un personnage extraordinaire. Quand un jour, j'ai vu des images d'elle venant inaugurer la boutique de son frère qui était l'inventeur de la galette bretonne à Paris, les grands boulevards étaient embouteillés parce que Miss Tinguette était là. C'était une star comme on n'imaginait pas. Elle arrivait aux États-Unis et c'était aussi une reine du marketing avant la lettre. Quand elle ne savait plus quoi dire sur elle, elle s'inventait un mariage.
Alors, puisque nous parlons de Folies Bergères, il faut évoquer la figure incroyable, enfin, pas seulement la figure du reste, de Joséphine Baker.
Oui, car Joséphine Baker débute au Théâtre des Champs-Élysées et fait scandale en 1925.
Avec sa petite ceinture de banane, pas encore d'ailleurs.
Non, ça c'est vraiment la danse sauvage de la revue de 1925. Et Paul Derval, qui est le directeur des Folies Bergères, dit « je vais essayer quelque chose avec Joséphine ». Il l'engage en 1926 pour une revue. Et c'est lui qui a l'idée de lui glisser une ceinture de banane. Mais attention, Joséphine ne chante pas à l'époque. Elle va chanter 4 ans plus tard. Mais c'est un tel numéro de voir Joséphine, qui est une véritable liane avec sa ceinture de banane dans les airs, descendant du plafond des Folies Bergères, que c'est un véritable triomphe et elle devient la reine de Paris avec un spectacle qui s'appelle, je crois, Un soir aux Folies.
Un soir aux Folies, et ça a été vraiment, ça a marqué une génération, ça. On peut
oui,
dire.
Parce que, et on a toujours l'impression qu'elle chantait à l'époque, mais elle a vraiment, c'était la rivale de Miss Tinguette à l'époque. C'était une bagarre.
Beaucoup plus jeune, beaucoup plus exotique, enfin.
Oh oui, mais Miss Tinguette.
Non, mais je sais que je ne dis pas de mal de Miss Tinguette.
Non, mais Miss Tinguette faisait toujours croire qu'elle avait 20 ans de moins que la réalité. Ouais. Donc ça s'équilibrait.
Ce qui est certain. Pardon, ce qui est certain, c'est que nous sommes là dans l'âge d'or du music-hall. Ces années folles ont été vraiment une période d'incroyable prospérité des spectacles en tout genre, de la danse, des revues et du music-hall. Hein,
c'est vraiment... totalement. RT qui fait les décors est resté un artiste reconnu aujourd'hui. C'est-à-dire que les chansons qui sont nées à cette époque-là, c'est Mon homme, alors voilà, c'est Paris ça. Et beaucoup d'autres. J'ai deux amours.
C'est je suis né dans le Faubourg Saint-Denis.
Oui.
Moi j'en ai marre,
mais tout ça aujourd'hui, et n'oublions pas qu'à une époque, la chanson française était connue aux États-Unis. Quand vous prenez Parlez-moi d'amour de Lucienne Boyer en 1931, c'est un tel succès à New York qu'elle descend la 5e avenue fêtée comme le président des États-Unis. Et ça, on l'a totalement oublié.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait de grandes vedettes au music hall qui étaient l'équivalent de ce que sont devenues par la suite les stars de cinéma ou maintenant de télévision, finalement.
Exactement, et c'était même plus fort encore.
Même bien plus
Maurice
fort.
Chevalier est une star aux États-Unis. Charles Trenet fait un tabac après la guerre. Edith Piaf, non sans mal, devient une star. Charles Aznavour l'est aujourd'hui et Yves Montand l'a été. C'est quand même pas mal.
Alors, pour revenir sur ce halo sulfureux qui nimbe la réputation non seulement des Folies Bergères, mais d'un certain nombre de grands cabarets parisiens, est-ce qu'on peut dire que c'était des lieux de débauche, ces cabarets?
Non, en réalité, il y avait quelques princes qui venaient, le prince de Galles, le roi d'Espagne, qui venait au Moulin Rouge et qui se faisait un peu insulter par la vedette, mais il le prenait très bien.
Ça se terminait. Ça faisait partie du jeu.
Oui, ça faisait partie d'une bouteille de champagne. Et Miss Tinguette a parvenu à faire libérer Maurice Chevalier, qui était en prison en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'elle avait été très proche du roi d'Espagne, Alphonse XIII. Donc, ça servait toujours. Mais surtout, il y avait les cocottes qui allaient vers les riches bourgeois. C'est de tout temps, simplement, c'était pas ce qui comptait pour le public du music hall.
Alors, il y a d'autres grands cabarets. J'ai parlé de l'Alcazar, qui était un des plus anciens, mais c'était très important aussi, hein, qui a joué un rôle essentiel, alors, et qui a changé d'adresse. Alors, d'abord, il y avait deux Alcazars.
Il y avait l'Alcazar d'hiver et l'Alcazar d'été.
C'est ça.
L'Alcazar d'été, c'est ce que l'Espace Cardin aujourd'hui, c'est le Théâtre des Ambassadeurs à la Concorde.
Partie de toutes ces petites fabriques du rond-point de la Concorde, des Champs-Élysées.
Oui, mais c'est quand vous disiez que les gens venaient boire un verre, effectivement, mais on voyait des vedettes qui se rodaient leur tour de chant.
C'est ça.
Maurice Chevalier a fait ça pendant des années pour devenir ce qu'il a été. on apprenait son métier. Aujourd'hui, vous passez à la télévision, en deux jours vous êtes vedette et trois jours plus tard vous êtes oublié.
Ouais, bien sûr.
Là, il fallait des années pour apprendre et trouver son personnage.
Et c'était des carrières qui duraient infiniment. Je parlais de Paulus tout à l'heure ou de gens comme ça, on les voyait vraiment très longtemps.
Hein. Bah, Paulus, Dranem, qu'on a oublié aujourd'hui, que Maurice Chevalier a entièrement copié. Et les carrières duraient 10, 20, 30 ans, mais ils gagnaient pas beaucoup d'argent parce que les disques, il y en avait très peu. Le produit dérivé n'existait pas, la télé n'en parlons pas. Donc ils vivaient de cachets qui touchaient en passant à la radio et de cabarets souvent payés en liquide le soir.
Une autre grande enseigne, si je puis dire, c'est évidemment le Casino de Paris.
Oui, Casino de Paris qui a été créé par Léon Volterra, qui était un personnage incroyable, qui avait commencé comme ouvreur à l'Olympia en vendant les programmes, il disait « je les paye 100 sous ». C'est-à-dire qu'il a fait une fortune parce que les gens donnaient beaucoup plus. C'est un monsieur qui ne savait ni lire ni écrire. Et il a réussi à inventer le Casino de Paris en 1917 et à créer les premières grandes revues, car il a fait venir une dame qui s'appelait Gaby Delis, qui était tombée amoureuse d'un danseur à New York qui s'appelait Harry Pilser. Et au Casino, en 1917, pour la première fois, il y a un orchestre de jazz et les claquettes d'Harry Pilser. Gaby Delis meurt quelques années plus tard et Miss Tinguette va assurer sa relève. Sinon, elle aurait été la grande reine du music-hall. Volterra jouait beaucoup, donc il a perdu le Casino. Mais Henri Varnat l'a repris et transformé jusqu'aux revues de Lynn Renault qu'il a inventées et qui ont été le dernier grand triomphe du Casino de Paris dans les années 50-60.
On peut dire qu'elle est la première meneuse de revue, en quelque sorte.
Miss Tinguette est la plus grande meneuse de revue, mais la première qui a vraiment poussé le music-hall et le cabaret à son paroxysme.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et pour parler de l'histoire des cabarets, on vous retrouve, Franck, avec votre invité, le journaliste, écrivain, historien des music-halls, Jacques Pessis.
Et oui, Jacques Pessis, qui nous fait une grande joie en étant ici, en faisant revivre tous ces cabarets. Alors, on célèbre cette année le 60e anniversaire du Crazy Horse, donc qui se trouve tout près d'ici, hein, avenue Georges V. Deux livres, il y en a un qui s'appelle « Crazy Inside », avec des photographies d'Antoine Poupel et des textes de Corinne de Cotigny. Ça, c'est aux éditions du Chêne. Ça fait partie de ces très beaux albums. Et puis Crazy, par Antoine Crook, aux éditions Erol. Donc, vous voyez que ce 60e anniversaire du Crazy Horse ne passe pas inaperçu. Il a beaucoup changé, ce Crazy Horse, en 60 ans, Jacques Pessis. Au départ, on peut dire qu'un très grand nombre de vedettes y ont fait leur début. Je pense à Charles Aznavour, à Fernand Reynaud, par exemple.
Raymond DeVos.
Raymond DeVos, bien sûr.
Qui était absolument inconnu, mais c'était une cave qui avait quelques projecteurs. Alain Bernardin, qui était un peintre au départ, a transformé
Alain Bernardin, c'est le créateur.
Le créateur. Oui. Et il l'appelait le Crazy Horse parce qu'il aimait les westerns et les indiens. Et Crazy Horse, c'était un chef Sioux. C'était le Crazy Horse Saloon.
Ça veut dire le cheval fou, hein, quand même, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait coutumiers de la langue de Shakespeare.
Exactement.
Et il invente immédiatement les premières danseuses, mais ce n'est pas du tout la lumière d'aujourd'hui. Il prend quelques projecteurs et chaque tableau, c'est un tableau de peintre. Et il va vraiment créer le principe du Moulin Rouge, du Crazy, avec le striptease chic. Car à l'époque, ça n'existe pas. Et ça devient
une mode. C'est-à-dire qu'il redonne des lettres de noblesse à ce qui était devenu un art très dévoyé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Totalement. Oui. C'est-à-dire que les jeunes filles sont belles, sont discrètes, montrent à peine tout. Et surtout, il y a de la lumière, il y a de la musique. Et c'est un véritable art vivant. Et c'est ça qui va faire le succès du Crazy Horse, avec les attractions au milieu, dont un magicien qui rate faussement tous ses tours, qui s'appelle Macronet, et qui va tenir pendant 30 ans au Crazy Horse.
Une star, on peut dire. Oui.
Et il invente aussi des prénoms totalement surréalistes aux danseuses. Alors, il les engage, elles ont 17 ans. À 30 ans, elles sont à la retraite. Beaucoup ne vont plus rien faire. Mais il y en a qui sont restées célèbres, comme Rita Renoir, qui est devenue actrice ensuite avec Michel Simon. Rosa Fumetto, qui a fait part d'elle dans les journaux qu'on n'appelait pas encore People, en ayant une liaison avec Johnny Hallyday, puis avec Michel Polnareff. Et il y a eu Love Amour, qui a épousé Alain Bernardin. Il y a eu un personnage qui s'appelait Frida Vom Paraboum. Ça a amusé beaucoup Bernardin. Et à chaque fois, ces filles étaient engagées, surveillées. Elles avaient la livrée de caisse d'épargne, on virait une partie de l'argent et il y avait une pointeuse pour qu'elles arrivent à l'heure et qu'elles repartent à l'heure.
C'est-à-dire qu'elles étaient quasiment des salariés, comme si elles avaient travaillé dans une bonneterie. Hein,
mais elles étaient protégées. Tu sais, quand on arrive à Paris de l'étranger, qu'on a 17 ans, à l'époque, on peut être soumis à n'importe quoi. Et Bernardin les considérait toutes comme ses filles.
Alors, il faudrait dire un mot, parce que je vois que l'heure tourne, évidemment, d'autres cabarets. Je pense à Michou, par exemple, évidemment.
Michou, au départ, c'était une discothèque. Et puis, il rencontre son teinturier, qui s'appelait Eugène. Et ils décident de faire ensemble des numéros de travestis, de transformistes. Et c'est un immense succès, à tel point que Michou va garder son cabaret et que Eugène va transformer un autre lieu aux Champs-Élysées qui va devenir cabaret vedette des Champs-Élysées, la Grande Eugène, qui a
été fréquentée, alors là, vraiment par le Tout Paris.
Paris, et la vedette était Ernst von Kratsch, qui était un travesti qui n'était autre que le comédien Jean-Claude Dreyfus.
Tout à l'heure, en entendant Line Renaud, vous nous citiez Thierry Leluron à propos d'Line Renaud, qui lui-même vous citait, si j'ai bien compris.
C'est-à-dire qu'un jour, j'interviewe Thierry Leluron et je lui dis 1515, qu'est-ce que ça vous rappelle? Il me dit l'entrée de Line Renaud au Casino de Paris. Je publie, bien sûr, et Line Renaud nous a fait un droit de réponse en disant ce n'est pas en 1515, mais en 1789 que je suis entré au Casino de Paris. Elle a de l'humour.
Ça, personne n'en doutait.
On n'en doute pas.
D'autres cabarets comme le Paradis Latin, on pourra pas faire le tour.
L'Alcazar de Paris.
Hein.
Jean-Marie Rivière, Butler à Saint-Tropez, crée l'Alcazar de Paris qui, dans les années 70, devient le lieu où on se retrouve tous les soirs. Il le quitte et il crée le Paradis Latin qui existe toujours
aujourd'hui.
C'est-à-dire
que là, le cabaret, à ce moment-là, devient quasiment un peu comme l'ancêtre... Enfin, c'est une boîte de nuit.
Il y a un spectacle avec 20 personnes sur scène, un peu plus... Il y a des attractions, il y a Daniel Guichard qui chante, qui débute tous les soirs, Betty Mars, le Luron qui monte sur scène pour le plaisir, et on se retrouve pour boire un verre et voir un vrai spectacle de cabaret.
On sent à votre voix que vous vibrer à ce genre de souvenirs.
Ah oui, parce que c'est la fête, parce que c'est la magie, parce que rien ne remplacera jamais la magie du musical et du cabaret.
Alors aujourd'hui, on voit un certain nombre de cabarets s'installer en province. C'est une nouvelle tendance, et avec d'ailleurs parfois de très très beaux résultats.
Ah bah, il y a en Alsace un cabaret qui fait plein tous les soirs, depuis des années. Les touristes y vont parfois du monde entier, et c'est un énorme succès. Ça prouve qu'aujourd'hui, il y a encore un avenir pour le cabaret en province et à Paris.
Et peut-être à l'étranger aussi. Est-ce que nous avons fait école de ce point de vue?
Tout le monde parle de Broadway, on parle de l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de lieux. C'est le principe du cabaret traditionnel, du musical traditionnel, avec des vedettes locales et avec une modernité qui est de bon aloi souvent.
Alors, on a parcouru plus d'un siècle de cabaret. Si l'on devait citer parmi ceux qui vivent encore, le plus ancien.
Le plus ancien, c'est aujourd'hui le Moulin Rouge, 1889. Ça existe quand même depuis très longtemps. Non, Folie Bergère, mais
c'est plus un cabaret.
C'est
une salle de spectacle.
C'est une salle de spectacle. Ouais. Et d'ailleurs, avec dans les sous-sols, les lieux qui existent encore. Mais le vrai.
Quand vous dites dans les sous-sols, ça veut dire que les.
En dessous, vous avez des petites rivières qui coulent avec des bouts de décors et des installations comme autant des revues. Et puis le promenoir n'existe plus, mais il y a un déplacement qu'on peut faire. Où les danseuses se promenaient pendant la revue. Tout est encore en état. Mais le Moulin Rouge reste le plus ancien et le plus fréquenté, puisqu'il affiche complet tous les soirs, 7 jours sur 7.
Et on peut dire qu'il fait tout à fait bonne figure. Le Moulin Rouge est resté un établissement de très grande qualité.
Oui, et si les étrangers y vont, du Japon, l'Espagne, Russie ou États-Unis, c'est parce que c'est la tradition de Paris, la ville lumière.
Est-ce que le cabaret a un rôle dans l'évolution de la chanson, de la musique et de la chanson?
Alors, certains cabarets ont permis à des chanteurs de débuter, mais ce n'était pas vraiment le lieu exact. C'est vraiment le music hall et les cafcons qui ont permis à des chanteurs d'apprendre leur métier. Ou des petits cabarets de l'époque qui n'existent plus.
La boucle est bouclée, je parlais des cafcons pour commencer l'émission. On parle aujourd'hui encore de café-concert, mais alors dans un tout autre registre, ce n'est plus du tout la même chose.
Ah non, le café-concert était un mot inventé à l'époque, qu'on a repris et transformé. Et encore une fois, le café-concert est devenu le music hall et il manque aussi une chose à Paris, ce sont les petits cabarets où vous alliez et où Jacques Brel, Guy Béard, Pierre Perret, Serge Lama ont appris leur métier. Et sans ces lieux fréquentés par le public, on ne peut pas devenir un véritable artiste.
C'est ça. Or, le public fait une grande partie du cabaret et du spectacle, incontestablement.
C'est le public. Personne d'autre.
Oui, il y a de bonnes salles et de moins bonnes. Et puis, il y avait, ça c'est moins le vrai maintenant, il y avait des publics assez spécifiques en fonction de ces différentes maisons. On ne trouvait pas tout à fait le même genre de public.
À l'époque, il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui et on n'avait pas d'exclusivité dans un cabaret, mais on ne devait pas passer dans un cabaret qui soit à moins de 2,5 km de l'autre.
Ah oui.
Et c'est comme ça que des
artistes... Pour pas faire de concurrence.
2,5 km, c'est rien du tout aujourd'hui. Mais à l'époque, ça permettait à des artistes de faire 3, 4, 5 cabarets dans la nuit et de gagner leur vie.
La grande époque, c'est donc les années folles.
La fin du 20e siècle, du 19e siècle, les années folles, et puis l'époque de Renault, qui est encore une grande époque.
Je pense qu'on peut dire que les années 70, c'est là que je voulais en venir pour citer votre ouvrage. Ça s'appelait Cabaret 70.
Mais là, c'était la dernière époque avec justement la Grande Eugène, Michou, L'Ange Bleu, L'Alcazar et le Paradis Latin.
Avec Guy Gallis, c'était aux éditions Vade Retro en 2001. Vous êtes aussi l'auteur, donc Les Folies Bergères, Le Moulin Rouge, mais le problème, c'est qu'on ne les trouve plus en librairie.
Bah, je sais bien, mais peut-être qu'un jour ils ressortiront.
Et puis donc, deux nouveaux livres qui sortent sur le Crazy Horse, dont on célèbre en ce moment les 60 ans. Vous pouvez aussi aller voir ce film en cinéma, ce film en salle qui présente les coulisses du Crazy Horse et la façon dont travaillent toutes ces demoiselles.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.